voudrais vous raconter l'histoire d'un geste parfait, ou plutôt l'histoire d'une femme, une championne de tennis en plein match. Elle a la pression, elle sent tous les regards sur elle et peut-être même le sien de regard. Il y a quelque chose de lourd, de pesant sur ce gazon de Wimbledon. Elle sait que c'est maintenant là que ce point est hyper important. Elle tente bien de n'y point songer, de se concentrer sur le présent, ici et maintenant, comme on dit, mais rien n'y fait. Les conséquences de ce point, si elle le perd, elle les voit très bien. Et pour tout vous dire, elle voit même au-delà. Elle est sur le circuit depuis près de 20 ans. C'est son 62e Grand Chelem d'affilée. Et c'est peut-être le dernier Wimbledon de sa vie. Alors ce point, cette balle de break décisive, elle n'a pas du tout envie de le rater. Car elle sait que si elle le rate, les choses vont devenir très compliquées. Et peut-être même s'assombrir d'un coup. Et peut-être même s'enchaîner très vite vers la défaite et vers un au revoir qui pourrait bien avoir une gueule d'adieu. Et il faudrait qu'elle ne pense qu'au présent ? Qu'elle joue ce point-là et après l'autre, on fait comment dans ces moments-là? On pense à quoi? On pense à rien? Ou on pense à ce petit truc précis dont on a le secret? On se relâche ou on se concentre? On compte sur son corps, sur sa respiration? Ou sur sa force mentale, sur sa concentration? On se rassure avec une routine, on se sécurise? Ou alors on risque tout, on improvise? On la trouve où, la force, pour faire ce qu'elle réussit à faire là, maintenant, en plein money time, en plein cœur de la pression? Elle se décale, elle tourne autour de son revers pour prendre la balle en coup droit, et là, parfaitement campée sur ses jambes, oubliant soudain tout, soudainement connectée à rien d'autre qu'à ce pur présent de la balle qu'elle frappe avec tellement de puissance et de joie, tellement de simplicité finalement. Elle lâche un énorme coup droit décroisé qui laisse son adversaire à 2 mètres de la balle. C'est tellement bon quand c'est simple comme ça. Ce geste parfait remplace tous les traités. Il n'y a rien à dire, rien à analyser, rien à commenter, juste à contempler. On appelle ça le flow, la grâce, être dans la zone. Ce geste parfait est une leçon de vie, une leçon d'esthétique et d'éthique en même temps. Mais d'où vient-il, ce geste parfait? Est-il parfait parce qu'il lui ressemble ou parce qu'il lui échappe? Est-il parfait parce qu'en lui, elle se retrouve ou parce qu'en lui, elle s'abandonne? Où a-t-elle trouvé la force de faire ça, ici et maintenant? A-t-elle repris contact, au cœur de la tempête, avec ce calme souverain au plus profond d'elle-même? Pour en parler ce matin de gestes parfaits et de force mentale, j'ai la joie de recevoir Alizé Cornet, championne de tennis mais également romancière. Alizé Cornet a l'exceptionnelle carrière, 11e mondiale, longtemps numéro 1 française. Alizé Cornet qui a disputé en juin dernier son 62e Grand Chelem d'affilée et en a profité pour battre la numéro 1 mondiale. Alizé Cornet qui a sorti il y a quelques mois, après donc avoir sorti le numéro 1 mondial, un roman, La Valse des Jours chez Flammarion. Alizé Cornet qui nous a fait le plaisir de venir ce matin sous le soleil de Platon dans la caverne de France Inter pour nous aider à réfléchir à cette étonnante et belle question: où trouver la force mentale?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Alizé Cornet.
Bonjour Charles.
Alors merci d'être avec nous entre deux tournois comme ça. Je voudrais, avant qu'on aborde les questions théoriques qui sont posées, qu'on revienne quand même sur cet exploit que vous avez réalisé en Wimbledon dernier, en juin dernier. Vous avez battu la numéro 1 mondiale, Świątek, très sèchement en plus, 6-4, 6-2, alors que vous avez 32 ans, ce qui est quand même assez âgé dans ce sport, que vous avez 20 ans de carrière. Et quand même, qu'est-ce qu'on ressent à ces moments-là?
Beaucoup de choses, on ressent beaucoup de choses. Alors j'ai pas encore 20 ans de carrière, j'en ai que 16, c'est déjà pas mal. Effectivement, je fais partie des vétéranes sur le circuit et j'ai déjà eu à faire face à ce genre de situation plusieurs fois au cours de ma carrière. Et je pense que le fait de l'avoir déjà réalisé, cet exploit face à Serena Williams en 2014.
À Wimbledon aussi d'ailleurs.
À Wimbledon sur ce même cours, au même stade de la compétition, ça m'a donné une sorte de confiance et de repère finalement pour le renouveler et j'y ai pensé beaucoup pendant ce match et je me sentais forte finalement. Donc j'ai pas vraiment la réponse à cette question, et j'espère ne pas devoir répondre à toutes les questions évoquées auparavant, parce qu'il y a beaucoup de choses que l'on place sur le compte de l'instinct, et ça, l'instinct, c'est quelque chose qui est encore assez mystérieux pour moi.
Mais quand même, quand on parle du mental, est-ce que c'est un concept qui vous parle, ou alors est-ce que vous trouvez que c'est pas le mot?
Ah si, ça parle évidemment. Quand on joue au tennis depuis qu'on est tout minot, le mental, c'est, on comprend vite que c'est une part prédominante de ce sport.
Ouais.
Moi, je suis une grosse bosseuse physiquement, tennistiquement. Je passe énormément de temps sur le court à travailler et j'ai longtemps délaissé cet aspect mental.
Ah oui.
Parce qu'on n'était pas sensibilisé finalement en France à travailler là-dessus. On pensait que c'était secondaire, alors qu'en fait, c'est une priorité. Et depuis que j'ai découvert ça, bah forcément, mon jeu s'en ressent. Moi, je me sens mieux sur le court. Et il y a des situations que je gère beaucoup mieux émotionnellement grâce à ce travail mental. Donc oui, ça me parle.
Mais par exemple, vous le travaillez comment, ce mental, cette force mentale ?
Alors déjà, je pense que c'est un travail qui vient progressivement à partir des heures qu'on passe sur le court. Et c'est vrai qu'on développe des automatismes qui font qu'on se met en confiance. C'est un peu le mot qu'on aime bien utiliser chez les joueurs de tennis, la confiance, la confiance.
Ouais.
La confiance, elle vient pas toute seule, elle vient en travaillant. Et après, un petit peu plus spécifiquement, le mental, moi je le travaille beaucoup avec la méditation.
Ah oui.
Et vous parliez d'instant présent plutôt. Et c'est vrai que c'est une des clés dans le tennis, c'est de pouvoir rester au maximum dans l'instant présent. Alors c'est pas toujours évident, il y a évidemment beaucoup de projections sur le passé, sur l'avenir, mais cet instant présent et cet instinct qui nous dicte finalement ce qu'on doit faire, pour moi c'est le meilleur conseil.
Mais il y a quelque chose de particulier dans le tennis, c'est quand même qu'on est seul, c'est-à-dire on ne touche même pas l'adversaire, contrairement à la boxe on peut quand même prendre appui sur lui, et donc on se retrouve avec un adversaire qui est souvent soi-même, et ça c'est une des caractéristiques. Et l'autre caractéristique, c'est que dans ce sport, peut-être plus que dans d'autres, il faut gérer la frustration vite. C'est-à-dire qu'en fait, on est très frustré quand on rate un coup, mais il faut réussir à enchaîner dans le coup d'après en passant très rapidement sur cette frustration. Est-ce que vous avez une méthode pour ça ? Et d'ailleurs, une méthode que nous, on pourrait appliquer dans notre vie à nous.
Fou des méthodes, j'en ai cherché longtemps, parce que la frustration, ça a été un problème récurrent chez moi depuis quasiment le début. J'ai toujours eu beaucoup de mal à gérer ma frustration. En plus, je suis légèrement perfectionniste, donc du coup, ça a rajouté un petit peu plus à cette colère que je pouvais ressentir envers moi-même de ne pas être à la hauteur de mes exigences.
Cette rage, quoi.
Ouais, c'était presque de la rage, effectivement. Et du coup, bon, la méditation, ça m'a apaisé là-dessus pour effectivement repousser un petit peu cette frustration en restant connecté à l'instant présent. Et honnêtement, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'on est juste conditionné à rebondir malgré tout, envers et contre tout, que ce soit après un point perdu ou après une défaite. On retourne toujours le lendemain à l'entraînement ou au point d'après au combat. Et du coup, en fait, c'est une sorte de gymnastique qui se met en place année après année. Après, il doit y avoir forcément des petits trick, comme on dit, pour piéger un peu son esprit, mais
c'est ça, ouais.
Moi je pense que c'est juste ma détermination qui fait que j'ai pas envie de donner plus de points à mon adversaire, j'ai pas envie qu'elle se serve de mes faiblesses, et donc je vais me forcer à rebondir.
C'est intéressant comme chemin, de dire je vais pas lui faire ce cadeau,
c'est ça.
Déjà je viens de planter un point, si en plus je m'énerve, je vais lui en donner deux.
C'est ça, et malgré tout, parfois c'est plus fort que soi, mais on sait que ça peut nous tirer une balle dans le pied, et on a quand même pas envie de s'enterrer tout seul, quoi.
Ouais. Vous connaissez la méthode Agassi avec la perruque?
Alors j'ai lu son bouquin, mais je me souviens plus.
Alors c'est une méthode de gestion de la frustration et aussi de gestion de ce qu'on appelle le money time quand il y a un gros enjeu.
Ouais.
Et ça va vous parler. Vous allez me dire si vous avez une méthode analogue. Lui en fait il avait une perruque. Donc nous on savait pas à l'époque. Il avait les cheveux longs décolorés, un peu rock'n'roll. En fait c'était une perruque. En vérité il était chauve, il avait honte de sa calvitie. Et en fait la perruque elle tenait très bien. Mais comme il le raconte dans ce très bon livre Open que vous avez lu vous aussi et que je recommande à tout le monde si vous avez encore le temps en cette fin d'été, en plus bien sûr du roman d'Alizé Cornet La valse des jours dont on va parler bientôt, lisez Open d'Agassi, c'est vraiment une biographie très passionnante. Et Agassi raconte que quand il a une balle de match contre lui ou une balle de break importante, pour se détendre par rapport à l'enjeu, il pense qu'il va perdre sa perruque.
Et il
joue en se concentrant pour pas perdre sa perruque, alors qu'en fait, elle risque pas de tomber. Hein. Mais comme ça, il oublie l'enjeu.
Oui,
et donc,
fait,
il se détourne de l'enjeu.
C'est ça. En fait, ça détend son attention, ça détend son stress sur autre chose. Et c'est vrai, moi, j'ai remarqué au cours de ma carrière que parfois, quand j'avais des problèmes plus importants en dehors du cours, quand j'avais quelque chose dans ma vie qui n'allait pas bien, je prenais beaucoup de distance, finalement, vis-à-vis du tennis, et ça me faisait bien jouer, parce que finalement, plus rien n'avait d'importance. Et je pense que ce qui est très difficile dans le tennis, c'est qu'il faut être très sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça, c'est vraiment un compromis qui n'est pas facile à trouver.
Et finalement, c'est une question qui se pose à nous tous dans l'existence. Comment être relâché quand il y a de la pression? Comment être sérieux sans esprit de sérieux? Comment être bon sans être obsédé? Donnez-nous un autre petit secret comme ça.
Alors, je suis pas sûre d'être légitime à donner ces réponses, parce que moi-même, je les cherche encore. Et je les chercherai toujours. Je pense que c'est un peu le quotidien de beaucoup de gens. C'est qu'on a envie de trouver cet équilibre. Malgré tout, moi, avec la maturité, avec mes 15 ans de circuit, j'ai remarqué que je devais déjà être plus tolérante avec moi-même. Qu'à partir du moment où je faisais de mon mieux, en fait, le concept de faire de son mieux, ça paraît peut-être un peu simplé et absurde comme ça, mais...
Pas du tout.
C'est vraiment quelque chose de très très important pour moi, c'est qu'à partir du moment où je sais que je fais de mon mieux, alors oui, parfois il y a des regrets, on se dit j'aurais pu faire ci ou ça, on refait le scénario des dizaines de fois dans sa tête, mais au moment T, à partir du moment où je prends mes responsabilités, je fais de mon mieux, mais finalement, j'arrive à passer un petit peu plus facilement à autre chose. Mais c'est évidemment, le tennis, c'est un sport qui peut vraiment entraîner une certaine obsession. Et donc, il faut essayer de rester sain dans sa tête, malgré tout.
Mais moi, je ne trouve pas ça du tout simplé, au contraire. Si, quand on a fait de son mieux, on arrive mieux à gérer la frustration, on arrive mieux à passer à l'étape d'après. Mais c'est pour ça que en revanche, quand on n'a pas fait de son mieux et qu'on a joué un peu petit bras, en tremblant, qu'on a été attentiste, qu'on a eu peur, alors on s'en veut vraiment, justement.
Pour le coup, c'est pas exactement la même chose d'être attentiste ou de jouer petit bras ou d'être un petit peu en proie à ses émotions. Pour moi, c'est pas ça, ne pas faire de son mieux, parce que parfois c'est des choses qui nous contrôlent plutôt qu'on les contrôle. Les émotions sont tellement fortes qu'en fait, faire de son mieux à ce moment précis, c'est juste essayer de survivre sur le terrain. Et oui, parfois c'est vraiment des émotions qui sont difficiles à contrôler. Moi, je parle plutôt faire de son mieux dans l'intensité, dans ce qu'on peut donner en termes de générosité sur le court, en termes d'attitude aussi. Et c'est vrai que moi, pendant des années, j'ai eu beaucoup de mal avec ce concept de faire de mon mieux, parce qu'en fait, je pensais que faire de mon mieux, c'était faire le mieux que tout le monde.
Ah oui.
Et donc en fait, là, voilà, j'ai remis un petit peu mon curseur à quelque chose de plus normal, parce que finalement, courir après la perfection toute une vie, c'est épuisant. C'est un peu courir après une chimère finalement, et j'avais plus envie de ça. Donc maintenant, j'essaye de me satisfaire de ce que j'ai accompli et de me retourner un petit peu plus sur ma carrière en étant fière de moi. C'est pas évident ça pour des gens comme moi d'être fière de soi.
Ouais, et puis c'est de remplacer la perfection par le perfectionnement en fait.
Oui, c'est ça, par progresser, toujours chercher des moyens de s'améliorer. Et finalement, c'est surtout ça, en fait. C'est, en anglais, on dit « trust the process », mais c'est faire confiance, finalement, c'est le chemin qui est important, pas la destination. C'est toutes ces phrases-là, en fait, que je me suis répétée, moi, tout au long de ma carrière, mais que je commence réellement à saisir.
À entendre, c'est ça.
Vraiment, ouais. Que depuis peut-être 3-4 ans.
Et c'est ça, le point commun entre le sport de haut niveau et la philosophie, c'est qu'il y a des phrases qui sont simples, en fait, on met 15 ans à les comprendre, on met 30 ans, parfois, à les entendre.
Tout à fait.
Ce qui est très commun entre donc la manière de penser de Nietzsche et peut-être la définition du champion sportif, c'est effectivement cette solitude qui s'éprouve au travers d'une quête d'absolu et de grandeur. Bon, avec à la fois toute la positivité de la chose, c'est-à-dire que effectivement le tennis c'est une expérience de soi, c'est aussi une expérience de ses puissances et de ses impuissances. Quand on gagne, on est puissant, effectivement, mais on est extrêmement fragile parce que la carrière d'un champion, c'est une petite ligne de crête qui s'avance, bordée de fossés et d'abîmes dans lesquels on peut sans cesse tomber. C'est le point commun, moi, que je pourrais relever entre la manière dont Nietzsche présente la grandeur, l'accès à la grandeur, et cette définition du champion qui est à la fois un idéal dont chacun peut rêver, on le voit bien avec l'engouement qu'il y a pour les champions sportifs, mais un idéal bordé d'abîmes, bordé de fragilité et de possibilités de sombrer.
Alors c'était Isabelle Keval, une philosophe, qui parle de Nietzsche et du tennis.
Ah, ça me parle. Ah oui. Bah déjà, c'est vrai que la solitude, le fait de se retrouver seul face à soi-même sur un terrain de tennis, finalement, il n'y a pas tant que ça de sport individuel par excellence comme ça, et ça nous met face à nos faiblesses, à nos forces, ça nous renvoie parfois en pleine figure nos peurs qui sont nombreuses, et oui, ce qu'elle vient de dire, ça me parle énormément, et c'est vraiment une très belle école de la vie, le tennis, finalement, parce que ça nous permet de mieux nous connaître, d'apprendre des choses sur soi, de grandir en accéléré, et cette solitude face à nos émotions, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la vie de tous les jours, et quand on arrive à les gérer sur un terrain, parfois c'est presque facile de le faire dans la vie normale.
Ouais, on imagine, et puis d'ailleurs, il y a ce monologue intérieur, vous connaissez peut-être ce livre « La solitude du coureur de fond ».
J'en ai entendu parler.
J'ai oublié là le nom de l'auteur, mais peu importe. C'est un très beau livre où on est dans la tête de quelqu'un qui court un marathon, qui est pieds nus, puis il y a un enjeu politique dingue. Je crois que c'est quelqu'un qui est en prison. Il a le droit de courir en sortant de prison. Et puis, en fait, il n'ose pas parce qu'en fait, s'il gagne, il milite pour le pays en fait, qu'il a enfermé. Et donc, c'est tout le monologue intérieur dans sa tête. Et c'est ce qui se passe aussi quand vous jouez au tennis, finalement. Il y a une solitude comme ça, avec, ça court dans la tête, quoi.
Ouais, alors moi j'ai remarqué quelque chose quand même d'assez flagrant chez moi ces dernières années, c'est qu'au moins il y a de monologues dans ma tête, au moins il y a de bruit et au mieux je joue. C'est que ce fait de faire de la place dans l'esprit, d'essayer de vider ses pensées, de ne plus penser à rien, c'est impossible, c'est évidemment hors d'atteinte, mais en tout cas avoir cette approche vraiment de penser minimum dans la tête et faire confiance juste à ce qui se passe et à son instinct. Ça c'est quelque chose moi qui me fait très bien jouer. Le problème c'est que j'arrive pas à le reproduire sur chaque match. Il y a vraiment des matchs où j'ai l'impression que je suis conditionnée à ne penser à rien sur chaque point à part à la balle, et d'autres moments, d'autres matchs où par rapport à ça dépend aussi des circonstances extérieures, parfois dans ma vie ça se passe un peu moins bien, donc j'emmène un peu mes problèmes aussi sur le court, bien que je sache très bien compartimenter, parfois ça déborde un petit peu, et là il y a ce monologue incessant qui s'installe et ces doutes, est-ce que je vais gagner, qu'est-ce qui se passe, ce dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer si je gagne, qu'est-ce qui va se passer si je perds, même ce point, ce set, ce match. Et là, à partir de ce moment-là, c'est le meilleur moyen de se noyer finalement et de perdre le fil du match.
Mais après, on vous comprend aussi parce que tous les coachs disent ça, voilà, il faut jouer chaque point comme ça, en étant à fond au présent. Tous les sportifs disent, voilà, j'essaie de jouer point après point.
C'est facile à dire.
Mais c'est facile à dire. Et le problème, c'est que le cerveau humain ne marche pas du tout comme ça. Non. L'esprit humain fonctionne par anticipation. Ouais. L'intelligence est une intelligence d'anticipation. Donc c'est presque un vœu pieux d'être complètement concentré sur le présent.
Ouais, mais l'anticipation, elle est létale dans le tennis, parce que on se prépare à ce qui va potentiellement arriver, alors qu'il y a des dizaines de scénarios différents. Et en plus, en se préparant à ce qui va arriver, par exemple, moi, pendant des années, je me suis souvent préparée à perdre. Mais en fait, j'arrivais souvent à cet objectif-là que je ne voulais pas, mais en fait, je l'anticipais tellement pour ne pas être déçue, pour me préparer à quelque chose de négatif, qu'au final, je trouvais ma destinée sur le chemin que je prenais pour l'éviter. Donc, c'était un peu.
Oui, mais attention, je vous interromps parce que je crois comprendre que vous ne militez pas pour autant pour le contraire. C'est-à-dire que moi, je trouve ça totalement contre-productif de dire il faut que tu visualises la victoire pour y arriver. Je crois que c'est une erreur symétrique.
Il y a des joueurs qui fonctionnent comme ça. Alors moi, j'ai plus de baguette magique et j'essaie d'appliquer ce qui me correspond à moi. Je sais qu'il y a des joueurs qui aiment se visualiser en train de gagner, en train de faire le coup parfait, en train de gagner des tournois. Ça les aide finalement à prendre confiance. Moi, je mise plutôt sur vraiment cette notion d'instant présent, parce que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux chez moi. Et je pense que c'est quelque chose qui se muscle, en fait. C'est vraiment comme on passe du temps dans la salle de gym pour faire de la prévention et pour faire en sorte de pas être blessé. Le cerveau se muscle à rester dans le moment présent. Et plus on le fait, et moins ça demande d'efforts. Et après, évidemment, il y a des pensées qui arrivent et des anticipations. Mais on est un petit peu plus armé pour les repousser, les mettre de côté le temps d'un match. C'est quoi? Une heure et demie, deux heures, allez, trois heures, c'est beaucoup.
Ou même le temps d'un point.
Et le temps d'un point.
To be myself.
C'était Oasis Supersonic.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Alizé Cornet, joueuse de tennis supersonique, pour reprendre la chanson d'Oasis, qui sort ce roman, La valse des jours, chez Flammarion. Mais avant d'en parler, nous revenons sur ce que vous disiez de très intéressant avant d'écouter Oasis, qui est, voilà, on va essayer d'être dans le point, d'être dans le présent, de pas trop anticiper, de lutter contre le penchant naturel de l'esprit humain à se projeter vers demain. Et donc, j'avais envie de vous demander, mais alors c'est quoi la méthode? Parce que finalement, vous nous avez pas encore donné la clé. Est-ce que la méthode, c'est le plaisir? Est-ce que la méthode, c'est la sensation, c'est d'écouter la balle, de frotter la balle? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce qu'au contraire, il faut faire le vide? Imaginez par exemple que vous devenez coach, peut-être ça va vous arriver, on sait jamais, et vous avez un jeune joueur, appelons-le Joe, voilà, et lui, il est hyper bon, hyper prometteur, il adore ça, mais le problème, c'est que quand il rate un truc qu'il aurait pas dû rater, il arrive plus à, il a la rage, il a un sentiment de frustration, et il va planter 2-3 points, parce qu'il n'arrive pas à retrouver ce présent. Quel conseil vous avez à donner à ce Joe?
J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. Alors déjà, je pense que c'est quelque chose qui se travaille pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Ça vient pas en une fois et c'est pas parce qu'on a une méthode qu'on peut l'appliquer immédiatement. Mais je lui dirais que la chose la plus importante et ce qui a marché pour moi, c'est le lâcher prise.
Oui.
C'est faire confiance en son instinct, faire confiance en toutes ces heures d'entraînement en fait qu'on passe sur le terrain à perfectionner un geste, pour ensuite finalement laisser parler notre instinct sur le court, parce que c'est ça le secret. C'est quand la balle arrive, on la voit arriver. Alors oui, parfois même pendant le point, il y a des pensées parasites qui arrivent. On a peur de rater, on a peur de perdre le point, et à ce moment-là, la seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est finalement j'ai répété ce geste des heures et des heures et des heures durant. Je n'ai plus qu'à lâcher prise sur le résultat et voilà, à laisser parler mon instinct, à laisser parler presque ma mécanique en fait, mon corps c'est mieux que mon esprit. Mon corps, il est formé à taper cette balle de telle manière, et finalement il faut à un moment donné que je laisse la place à ce corps pour s'exprimer et que je mette mon cerveau en sourdine.
En tout cas, permettez-moi de jouer un petit peu prof de philo pointilleux, c'est un peu contradictoire avec la force du mental, je trouve. Parce que la force du mental, ça laissait entendre que oui, j'ai un mental, je me coupe un peu de mon corps et je suis en conscience.
Et oui.
Alors qu'en fait, non, il s'agit plutôt de laisser le corps, d'avoir confiance. En fait.
Non, c'est là où le tennis est un sport très très vicieux. C'est que pendant le point, il faut laisser le corps s'exprimer.
Ouais.
Mais après, il y a tout le temps qu'on passe, les breaks qu'on a entre les points, entre les jeux. Et c'est là où finalement, on peut cogiter énormément, on peut laisser beaucoup de place au mental pour s'exprimer de façon négative. Et en fait, c'est à ce moment-là où le mental, il est le plus important. C'est rebondir après une erreur, rebondir entre chaque point, trouver la motivation de continuer, la détermination, même quand ça se passe pas bien, se répéter un discours positif. Et en fait, c'est là où finalement le mental a sa plus grande part d'importance, mais pas pendant le point.
D'accord.
Pendant le point, c'est là où finalement, il faudrait qu'il soit spectateur dans les tribunes et qu'il laisse le corps s'exprimer. Et c'est là où finalement, ce ping-pong finalement, entre le corps et l'esprit, s'exprime à merveille, je trouve, au cours d'un match de tennis. Et c'est ça qui est fascinant dans ce sport.
C'est très beau ce que vous dites, c'est ça qui est très complet en fait.
Ouais, c'est très complet, c'est qu'il faut finalement être... Les joueurs de tennis, on est, je pense, les athlètes les plus complets, que ce soit physiquement, parce qu'il faut être fort, endurant, souple, explosif, et résistant à la douleur. Et aussi, mentalement, il faut être armé contre tous les types de situations et même des types de situations qu'on rencontre finalement dans la vie de tous les jours. Il faut avoir du courage, de la résilience, de la détermination. Et en fait, voilà, tous ces paramètres, ils doivent être vraiment développés au maximum pour avoir la chance de survivre parmi ces bêtes affamées que sont les joueurs de tennis. Et surtout que moi, j'ai 32 ans, je vois les jeunes générations arriver et j'arrive à être quand même encore à un très haut niveau parce que justement, je pense que j'ai cette flamme, cette énergie et ça, on peut dire que c'est le mental. Je suis en bonne santé et tout ça, mais cette flamme, c'est vraiment grâce à ma volonté de toujours et à mon amour du jeu. Je pense que l'amour du jeu, il est aussi en grande partie la raison pour laquelle je joue bien et pour laquelle je continue de jouer.
Et d'ailleurs, je rappelle que on entend bien ce que vous dites, parfois penser, parfois ne plus penser, le mental entre les points, pendant les points, faire confiance à ce corps entraîné, à ce corps qui sait, à ce corps qui se souvient, à ce corps qui a des routines, on pourrait dire.
Oui.
Je rappelle pour nos auditeurs que en effet, vous avez battu la numéro 1 mondiale il n'y a pas si longtemps à Wimbledon, 6-4, 6-2 en plus, une victoire sèche, et que vous avez presque le record de tous les temps du nombre de grands chelems d'affilée. Pour l'instant, vous êtes à 62, mais si vous atteignez 63, alors personne ne l'aura jamais fait dans l'histoire du tennis.
Je me suis demandé effectivement ce que pensaient les joueurs de tennis et il me paraît qu'il y a deux peut-être réponses qui sont insuffisantes, c'est-à-dire soit de dire que le joueur de tennis ne pense à rien, la pensée relève d'un autre ordre, de la manipulation des concepts, etc. Soit de dire que le joueur de tennis pense, mais il pense d'un point de vue extrêmement réduit, c'est-à-dire il pense tactique, il pense stratégie, etc. Or, il me semble que il y a une forme de pensée qui s'exprime à travers le jeu de tennis et qui fait que, par exemple, on peut, je pense, distinguer assez facilement des joueurs de tennis intelligents et des joueurs de tennis qui le sont moins. Mais c'est une pensée qui
est
une pensée.
Ça se voit à quoi ?
À la façon de jouer. Ça se voit à la façon de jouer, à la façon de conduire une partie, à la façon de s'adapter au jeu de son adversaire. Mais c'est une pensée qui est sans distance, c'est une pensée qui est sans réflexion, c'est une pensée qui est en acte et qui s'exprime sans reste, une pensée sans reste. Et j'ai le sentiment, moi, que c'est une dimension effectivement importante dans le tennis et qu'on a peut-être tendance à négliger en faisant du sportif quelqu'un qui, d'un point de vue physique, est excellent sans doute, mais qui n'a rien à voir avec le monde de la pensée.
Alors, Alizée Cornet, c'était Christophe Lamour. À quoi pensent les joueurs de tennis ? Et il y a des joueurs intelligents et d'autres qui le sont moins. Je trouve que c'est vrai, non ?
Le concept de l'intelligence sur un court de tennis, c'est quand même assez abstrait parce que je pense qu'un joueur peut faire preuve d'une intelligence de jeu sans forcément être quelqu'un d'ultra intelligent dehors. C'est là où je parle
Vous
beaucoup
avez
d'instinct.
Un exemple ?
Non. et quand bien même, je ne le citerai pas. et vice versa, un joueur qui peut jouer, entre guillemets, on a ce terme bourrin sur le court, et qui peut être une personne sensée avec une pensée très développée en dehors. Mais c'est vrai que, en général, les joueurs qui développent un sens tactique très développé sur le court, c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Et quand ils arrivent à faire déjouer leur adversaire, à manipuler un petit peu le point à leur guise, bah, ça relève un petit peu d'une pensée, ou du moins d'un cheminement qui fait que c'est un petit peu plus, un peu plus mental, mental finalement que service coup droit ou des schémas très très simples qui font qu'en fait il y a pas de plan B, pas de plan C, il y a le plan A et s'il marche pas, et ben tant pis, ça passe ou ça casse.
Mais le talent quand même dans votre sport, comme dans toute action, c'est aussi de changer son plan. C'est au contact de ce qui arrive de faire autrement que ce qui était prévu. Finalement, quelle place pour l'improvisation dans votre sport de haut niveau ?
Moi, je pense qu'il devrait y avoir beaucoup de place pour l'improvisation, parce qu'en fait, c'est un sport d'improvisation. Bien qu'on connaisse parfaitement nos adversaires souvent, parce qu'on se suit toute l'année, on se connaît par cœur, on se voit jouer tout au long de l'année, donc on sait à quoi s'attendre. Mais sur un match, il peut tout se passer, et moi, je trouve ça très important d'avoir plusieurs cordes à son arc, de pouvoir changer de tactique au cours d'un match, sans forcément avoir à en parler à son coach, à prendre ses décisions, à avoir la lucidité nécessaire pour voir ce qui se passe en face, pour voir comment on y réagit.
S'écouter aussi.
S'écouter et ajuster. Et c'est vrai que parfois ça, sous le coup de l'émotion, en perdant sa lucidité, ça peut être des choses à côté desquelles on peut passer très très facilement. Et même le joueur le plus intelligent du monde sur le court, s'il n'arrive pas à garder la tête froide, ça peut être vraiment un manquage total. Donc, encore une fois, c'est là où le mental rentre pour moi fort en compte, c'est que c'est au plus on a un esprit apaisé et au plus on laisse de la place dans notre esprit pour pouvoir analyser la situation et au plus on arrive à trouver des solutions. Mais encore une fois, dans un sport qui va aussi vite, où il y a autant de retournements de situation, où on a un adversaire en face qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas prendre et...
On ne peut pas lui taper dessus.
On ne peut pas lui taper dessus, on est obligé de le faire.
De passer par la balle, c'est pénible.
De passer par la balle, de passer par notre tactique, par notre stratégie. Ça peut, parfois, nous emmener dans des situations où on est perdu.
Alors, dans les différents chemins que vous nous proposez pour trouver la grâce, retrouver le flow, se sentir bien, alors que le bad trip monte, alors que la crise de confiance monte, vous avez parlé du mental, vous avez parlé de faire confiance au corps, vous avez parlé de l'entraînement, vous avez parlé des routines, tout ça très bien. Il y a un absent dans tous ces éléments, mais peut-être que je me trompe, parce que moi je ne suis pas sportif de haut niveau, malheureusement, mais je me suis toujours dit qu'on pouvait aller convoquer une pensée positive, mais dans un autre champ que le sport. Par exemple, on pense à une merveilleuse nuit d'amour avec son amoureux qui a eu lieu, je sais pas, il y a 3 semaines, ou alors on pense à un de ses enfants ou un de ses amis qui a eu une grande joie, et on va chercher comme ça dans le monde autre que le tennis, quelque chose finalement à quoi s'accrocher pour rebondir. Est-ce que je plane ou est-ce que ça marche ?
Alors moi je peux parler que pour moi-même, ce serait intéressant de poser cette question à d'autres joueurs, parce que je pense qu'on fonctionne tous, vraiment tous, de manière très unique et différente sur le court. Moi, ça ne fonctionne pas. Moi, je suis dans mon match et la pensée positive que je convoque, elle est par rapport au tennis, par rapport à me faire confiance, par rapport à le fait d'être tolérante envers moi-même, d'être fière de moi, de faire de mon mieux. Ouais. Mais par exemple, si je vais convoquer un souvenir, même le plus heureux souvenir du monde, oui, ça va m'apporter une joie de très courte durée sur 2-3 secondes, mais finalement, l'enjeu du match va toujours reprendre le dessus.
Ouais. Et moi, je suis pas un bon coach.
Non, parce que ça peut très bien parler à d'autres joueurs, et je pense qu'effectivement, pour en avoir parlé à quelques amis joueuses de tennis, je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça. Moi, ce qui fonctionne, c'est qu'il faut toujours que je pense au jeu, parce que je suis une grande joueuse, une grande compétitrice, et quand j'arrive à prendre du plaisir à jouer au tennis, mais vraiment au sens propre du terme, c'est là où finalement l'enjeu disparaît un petit peu, le jeu prend le dessus, et là il y a comme un peu une âme d'enfant qui ressurgit, et mon âme d'enfant, moi, c'est celle qui fonctionne le mieux. C'est celle qui est insouciante, qui est pleine de fraîcheur, dynamique, et finalement qui me fait faire les bons choix, parce que tout ce qui compte, c'est de s'amuser. Et ça, c'est important.
Et c'est peut-être ça le secret de votre longévité. Donc, j'ai dit tout à l'heure, 20 ans de carrière, en fait, ce n'est que 16, mais c'est déjà beaucoup. Vous avez commencé à l'âge de 15 ans, et vous avez été très longtemps numéro 1 française, vous êtes arrivé numéro 11 mondial, c'est quand même excellent. C'est une question qu'on vous pose souvent, mais quand même, c'est une belle question. C'est quoi le secret ? Comment on fait pour durer comme ça ?
Ben là, je pense que l'amour du jeu, il est très important. Moi, j'adore le tennis. C'est une passion d'une vie. Donc, c'est un sport qui me parle, qui me plaît. Je dis pas que c'est tous les jours facile de se lever pour aller à l'entraînement. Il y a beaucoup de lassitude qui s'est installée au fur et à mesure des années. Mais quand je suis sur le court, finalement, je redeviens cette gamine de 15 ans qui commence juste sa carrière. Et c'est une belle chose, finalement, pour une vétérane de 32 ans.
Dur, le haut niveau à 35 ans. André Agassi, diminué physiquement par une blessure, a été battu hier au premier tour de Roland-Garros par le Finlandais Nieminen. Ce sera peut-être ses derniers internationaux de France. Amélie Mauresmo a, elle, franchi ce premier tour avec facilité, 2-7 vite réglé, une autorité digne d'une candidate au titre. La numéro 1 française rencontrera demain une compatriote qui ne devrait pas lui poser trop de problèmes. Elle s'appelle Alizée Cornet, elle est 645e mondiale. Il faut dire qu'elle n'a que 15 ans, Alizée. Elle s'est offert hier sa première victoire porte d'Auteuil. Le poster d'Amélie Mauresmo est, paraît-il, au-dessus de son lit. De toute façon, le tournoi qu'elle dispute cette année, elle le vit davantage comme une groupie que comme une véritable joueuse. Écoutez-la au micro de Fabrice Abgral.
Ça fait bizarre. Surtout dans les vestiaires des filles, on est toutes ensemble, donc on se parle, on se dit bonjour, est-ce que t'as gagné, machin. C'est vrai que là, ça fait bizarre, je rencontre Federer en train de manger. En plus, ils sont simples, par exemple, Federer, il se prend pas du tout la tête, c'est vraiment agréable de voir. Il est numéro 1 mondial et il fait des sous, il m'a fait un sourire, j'étais toute contente. C'est vrai, après j'ai vu Andy Roddick, mon idole, j'en revenais pas, j'étais toute excitée. Maman, elle me disait, mais il faut que tu penses à ton match un petit peu quand même. Je veux pas faire la groupie à demander des autographes, sinon ils me prennent comme toutes les autres fans qui sont, c'est vrai, au bord des cours. Et donc là, c'est vrai qu'en passant au premier tour, je peux peut-être un peu m'affirmer sur le circuit, voilà.
Oui, sûrement. Il faut savoir qu'en plus, Alizée passe son bac français le mois prochain avec 2 ans d'avance.
Alors voilà, la jeune fille de 15 ans, on l'a entendu parler. Elle a trouvé pas mal, Federer en train de manger, sympa.
J'avais jamais entendu cette interview, je vais pas m'en remettre. C'est exceptionnel. Non, mais en fait, on voit la fraîcheur, on voit à quel point je suis sidérée de faire partie de ce milieu. Et c'est hyper beau de voir cette, cette fraîcheur, ouais, de Federer m'a fait un sourire. Enfin, c'est quand même pas non plus la folie, quoi. Et déjà, il en fallait pas plus pour,
Andy
pour transporter.
Aussi.
Ouais, Andy Roddick, c'était bon, j'avais un petit faible pour lui. Ah, là, pour le coup, j'ai failli faire un malaise quand je l'ai rencontré sous le Suzanne Lenglen la première fois que je l'ai vu, et c'est trop mignon. Mais je me rends compte finalement, après toutes ces années, quand j'arrive à Roland-Garros, j'arrive encore à le voir avec mes yeux d'enfant. J'arrive encore à me dire quelle chance j'ai d'être là. Alors oui, j'ai provoqué ma chance, j'ai beaucoup travaillé, mais quand même, je fais partie des rares élus. Et c'est important de ressentir de la gratitude, parce que je pense que c'est pas une bonne chose de considérer ce miracle comme acquis.
C'était Pomme Nelly.
Sous le soleil de Platon.
N'importe qui, dans un match, par exemple, s'il ne veut pas gagner, ben, il ne gagnera pas. De toute façon, c'est une qualité qu'il faut absolument avoir.
Charles Pépin. Sur France Inter.
Nous sommes avec Alizée Cornet. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Vous n'êtes plus simplement joueuse de tennis. Vous n'êtes plus simplement celle qui détient bientôt le record de tous les temps du nombre de grands chelems d'affilée en participation. Ce qui ne vous empêche pas, de temps en temps, de battre la numéro 1 mondiale. Ça vous est arrivé deux fois, en tout cas. Serena Williams, notamment. Et puis, Swiatek, comme on dit. Et là, vous sortez la valse des jours chez Flammarion. Une saga familiale en hommage aux femmes de votre vie, où il y a trois personnages de femmes qui me semblent inspirés de votre mère, votre tante et votre grand-mère. faire, qu'on voit sur toute une génération, on voit aussi une autre époque. Et c'est un alors j'ai envie de dire, le prenez pas mal, c'est un vrai roman, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien construit. C'est pas, voilà, c'est pas un document comme certains, je sais pas, chanteurs ou sportifs font. Vous savez vraiment écrire. D'ailleurs, vous aviez déjà écrit par le passé. Votre journal intime s'appelait Sans compromis il y a 2 ans. Et d'ailleurs, écrire était votre premier rêve avant le tennis.
Tout à fait. Ouais. Quand j'étais petite et qu'on me demandait ce que j'avais envie de faire plus tard, c'est bien après que j'ai répondu joueuse de tennis. Mais au tout début, mon rêve était de devenir écrivaine. Et là, le fait de le réaliser alors que je suis encore en carrière tennistique, et puis surtout ça me prépare un petit peu à ce qui m'attend aussi dans l'après-carrière, puisque je suis quand même plus proche de la fin que du début. Mais effectivement, je suis vraiment super fière de ce premier roman et des retours qu'on m'en fait, puisque c'est des retours positifs, bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer.
Mais finalement, c'était quoi l'idée ? Est-ce que c'était de développer une créativité ailleurs que sur le court, ou est-ce que c'est juste autre chose ?
Et en fait, finalement, comme sur le terrain, ça a été complètement instinctif. C'est que j'ai terminé l'écriture de Sans compromis, qui était un journal autobiographique, donc basé sur le tennis, et qui a été un challenge pour moi, mais finalement qui a été assez naturel à écrire, puisque j'ai toujours écrit des journaux intimes, donc c'était un peu la continuité de tout ça. Et j'avais envie de me mettre un vrai challenge dans l'écriture. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce roman. Aussi parce que je voulais en faire un hommage à ma maman et à ma grand-mère en particulier. C'est les deux personnages principaux du livre.
Oui, je vous interromps pour raconter quelque chose de très touchant. C'est qu'en fait, vous n'aviez pas, je crois, l'ambition de le publier au tout début. Vous vouliez l'offrir à votre mère à l'occasion d'un cadeau de Noël.
C'est ce qui s'est passé. Je l'ai commencé lors d'un Noël en famille et je l'ai fini le Noël d'après et je l'ai offert à ma mère. Donc c'était vraiment un cadeau de Noël. Alors oui, c'est un cadeau de Noël original qui m'a pris 12 mois de mon temps et énormément de recherches pour me replonger dans le Nice des années 60, dans les 30 glorieuses dont je ne connaissais quasiment rien. Donc ça a été hyper enrichissant, mais ça m'a demandé quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Et quand elle l'a lu, elle l'a tellement aimé et elle a tellement essayé de rester objective aussi. Elle m'a demandé de l'envoyer à un éditeur juste pour avoir un retour, pour avoir des conseils et pour avoir une ligne directrice au cas où, si il me venait l'idée d'en écrire d'autres. Et en fait, il se trouve qu'en l'envoyant à Flammarion, j'y ai été signée dans la semaine. Une semaine plus tard, j'ai eu un appel d'une éditrice qui s'appelle Louise Danou, que j'embrasse très fort, et de l'ancienne directrice de Flammarion, qui m'ont dit
Anna Pavlovitch,
tout à fait, et qui m'ont dit qu'elles étaient tombées amoureuses du manuscrit et qu'elles voulaient absolument pas me laisser passer. Et là, j'avoue, ça a été un moment très 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 fort dans ma vie, même comme une de mes plus belles victoires tennistiques.
C'est aussi un livre un peu féministe qui raconte des héroïnes, mais au quotidien, héroïnes sans héroïsme.
Oui, exactement. Finalement, des héroïnes du quotidien. Dans ces années-là, c'était des héroïnes qui avaient encore d'autres problèmes que les nôtres actuellement. Elles avaient beaucoup de mal à s'émanciper de leur mari, de leur mariage, même quand il y avait des violences domestiques, comme c'est le cas dans le livre. L'avortement n'existait pas. On voit qu'il y a des grossesses qui sont un peu inopinées et qui sont pas faciles à gérer. Et on voit ces femmes qui se battent finalement pour leur indépendance. Et encore une fois, c'est une question de résilience, je pense, là-dedans. Et moi, c'est cette résilience que ma maman m'a transmise. Et que j'utilise moi sur un sujet beaucoup plus léger qu'est le tennis, mais qu'elle a dû appliquer dans sa vie de tous les jours. Et Dieu sait à quel point elle a eu des obstacles de vie et à quel point elle les a vraiment franchis de manière admirable. Donc c'était aussi pour ça que je voulais lui en faire l'hommage, pour lui montrer à quel point j'admirais finalement cette héroïne sans gloire. Mais pour moi, c'est vraiment un modèle, un exemple.
Pour préciser pour nos auditeurs, donc je dis pas que c'est votre grand-père en vrai, mais en tout cas, il a inspiré ce personnage violent.
Oui, il est très vrai.
Voilà. violent, alcoolique et voilà. Et donc les femmes qui en sont victimes sont sa femme et sa fille. Il apparaît que finalement votre résilience à vous par rapport à la douleur, notamment quand vous jouez au tennis, parce que c'est dans un témoignage de champion, il y a souvent une grande découverte pour les autres qui est que ça fait mal, quoi, qu'on a tout le temps mal en fait. Même si vous semblez un peu épargné par ça, vous avez quand même un rapport à la douleur. Et de ce point de vue-là, vous semblez au fond hérité de cette force-là, de ces femmes, de votre famille.
Irrité, c'est-à-dire ?
Irrité, ben, en fait, ça, vous rejouez quelque chose de ça. Vous avez hérité d'une forme de résilience.
Ah, hérité. J'ai compris, irrité.
Non, hérité, pardon, l'héritage.
Ah oui, hérité, ah oui, ben, tout à fait. Mais comme je dis, c'était dans des circonstances qui étaient quand même beaucoup plus lourdes. Moi, je dois l'appliquer à ma passion, et ça reste une douleur toute relative. Pour préciser, juste par rapport au livre, mon grand-père était effectivement alcoolique, mais il n'était violent qu'envers ma grand-mère. Il touchait pas à ses enfants, et en fait il y a toute cette dualité en fait de ces enfants qui adorent leur père bien qu'ils soient conscients que le père est violent avec leur mère, et en fait on voit à quel point parfois ça peut être pervers finalement ce fonctionnement là et que les enfants malgré tout aiment leurs parents même quand ils connaissent leur faiblesse, même quand ils connaissent leur côté noir, et on voit à quel point finalement ça influe sur l'évolution d'un enfant, en l'occurrence ma mère et ma tante, et moi je me rends juste compte à quel point j'ai eu une enfance dorée, finalement, comparée à ces jeunes filles-là.
Et alors, si on reparle de la solitude du joueur ou de la joueuse de tennis, et qu'on la compare à la solitude de l'écrivain, ça se ressemble un petit peu, non ?
Un petit peu, effectivement. C'est marrant, j'ai eu cette conversation avec David Fuenquinos, que j'ai rencontré juste avant Roland-Garros, et avec lequel j'ai eu énormément de points communs. Et cette solitude, effectivement, elle nous réunit. Et c'est peut-être pour ça que je me sens aussi à l'aise, finalement, dans ce domaine-là, c'est que je me retrouve devant ma feuille de papier, ou devant mon ordinateur, en l'occurrence, et il n'y a plus que moi et mes pensées, et je me sens à l'aise. Parce que je l'ai tellement recréé, finalement, cette situation sur le court, qu'il n'y a pas de souci. Je suis dans mon élément comme un poisson dans l'eau. Et là, ce que j'aime bien, c'est que la notion de créativité, qui est déjà, je pense, présente sur un terrain de tennis, parce qu'il faut être créatif pour être bon, mais là, elle est vraiment décuplée. C'est que là, il faut vraiment faire preuve d'imagination, de créativité. Et finalement, la limite n'est que notre imagination. Et ça, j'aime bien avoir un espace sans limite, parce que sur le court, il y a quand même les limites du rectangle, les limites de la raquette, de la technique, de la tactique. Là, vraiment, en fait, je peux laisser libre cours à tout ce que j'ai dans la tête, et ça, c'est vraiment un kiff.
Donc finalement, ce sentiment de frustration très fort au tennis, cette colère, cette souffrance physique, de tout ça, vous vous libérez.
Ah oui.
Dans l'écriture, il y a juste la liberté.
Complètement. Bon, il m'arrive de m'énerver un peu quand je trouve pas les mots, quand j'arrive pas à décrire une action comme je le veux, ou une émotion, un sentiment. Mais c'est un énervement tout relatif. Mais il m'arrive d'avoir un tout petit peu de frustration. Mais effectivement, sinon, c'est vraiment une libération finalement d'écrire, parce que voilà, il n'y a pas toute cette rage parfois que je peux avoir contre moi quand j'arrive pas à faire ce que je veux sur le terrain. Là, finalement, peut-être que c'était ça ma vraie vocation. Je me pose la question.
Bah, vous n'avez que 32 ans. Hein.
Oui, mais oui. Puis voilà, le deuxième est déjà en route, fini quasiment. Donc le deuxième livre, je parle. Donc effectivement, peut-être.
Si,
que ça...
si on sort comme ça, on sort de la temporalité et on se dit, voilà, le champ des possibles est ouvert à l'infini. Donc on oublie que la carrière de tennis est près de s'achever et que celle de romancière commence. Hein. Mmh. Mais et que vous aviez le choix entre devenir prix Goncourt ou gagner Roland-Garros, préférez quoi ?
Non, Roland-Garros, sans aucun doute en fait, parce que les émotions sportives sont inégalables. Ça, pour le coup, j'ai commencé à avoir un peu de bouteille, entre guillemets, et j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, et j'ai jamais retrouvé une émotion aussi forte que celle de gagner un tournoi, un match, après des montagnes russes émotionnelles incroyables.
Vous avez un exemple de peut-être le moment qui vous a le plus marqué, un moment comme ça de pure présence, de joie, enfin un moment de...
J'ai eu le match contre Serena Williams à Wimbledon en 2014 reste un de mes matchs références, parce qu'en parlant de montagne russe émotionnelle, j'avais enterré ma grand-mère la veille. J'avais fait l'aller-retour à Nice pour aller aux funérailles de ma grand-mère. Le lendemain, je me retrouve sur le court numéro 1 à battre Serena Williams. Et là, je me dis, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, la vie est magique, entre guillemets, d'une expérience très, très douloureuse la veille. J'arrive à un moment des plus heureux de ma carrière sur le court le lendemain. Et en fait, la joie et la fierté d'accomplir ce genre d'exploit, elle dépasse beaucoup, beaucoup de choses. Donc, et puis, je pense que j'étais quand même faite pour faire du sport, parce que je suis assez robuste, j'ai beaucoup d'énergie, et je pense que rester toute la journée derrière un écran à écrire, c'est peut-être pas forcément aussi ce qui me convenait le mieux. Donc, au final, je pense que de moi-même, j'ai fait le bon choix.
Roland-Garros plutôt que Goncourt. Et d'ailleurs, c'est à cette grand-mère que vous rendez hommage, précisément, ouais. dans ce très beau roman, La Valse des Jours. Et puis, on imagine aussi que dans ce moment que vous avez décrit, au fond, tout est là. Le bien comme le mauvais, les efforts, sport, la joie, le plaisir. Et dans ce grand moment de sport, bah, y a tout en même temps. Voilà, vous avez perdu votre grand-mère, mais vous venez en même temps de battre Serena Williams. Merci beaucoup, Alizée Cornet, de nous avoir rejoints ce matin sous le soleil de Platon. Je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui a été la vôtre. Et d'ailleurs, à travers cette question, au fond, de tous les chemins que vous nous avez proposés pour essayer de retrouver la grâce, le flow, d'être dans la zone, comme on dit, quand on en est sorti. Et j'ai fait une petite liste, comme ça, au fur et à mesure de l'émission. Alors d'abord, le mental. J'ai trouvé que vous êtes allé un peu fort sur le mental, et ça tombe bien, parce qu'après, vous avez dit, mais non, le mental, c'est juste entre les points. Pendant le point, il faut justement se lâcher prise, quoi, et faire confiance à ce corps qui a travaillé, ce corps qui s'est entraîné, ce corps qui a répété, et au fond, ce corps qui sait peut-être mieux que ma conscience. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le mental et le corps. Il y a aussi le plaisir, il y a aussi la sensation, il y a aussi la beauté. Parfois, vous avez dit, c'était beau, je lève les yeux au ciel, je m'aperçois franchement que le ciel est beau, et puis surtout, ce sentiment d'avoir de la chance, d'avoir de la chance de faire ce qu'on aime, de le faire bien, d'avoir de la chance de vivre son rêve. Et ce rêve, le vôtre ce matin, a été double. Un rêve de championne et un rêve aussi de romancière. Merci beaucoup, Alizée Cornet.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique Marie Potier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, avec Claire Denis.